Bonjour GPA, la justice donne raison au couple Menson. Elle établit le lien de filiation directe des jumelles nées à l'étranger d'une mère porteuse. Mais insiste, il s'agit d'un cas particulier. La boîte de Pandore est ouverte, redoutent les opposants à la GPA. Combien de radicalisés au sein de la police? État des lieux après l'attaque meurtrière à la préfecture de police de Paris. Il faut arrêter cette barbarie. Dans ce journal, la colère d'un enseignant de Seine-Saint-Denis après la mort d'un lycéen tué dans une bagarre entre bandes. Hong Kong paralysé aujourd'hui, métro stoppé, commerce fermé, état d'urgence décrété après de nouvelles violences. Enfin, le foot féminin pour les Bleus, on verra qu'il y a un avant et un après Coupe du Monde.
Les invités de la matinale, 7h50, Patricia, vous recevrez...
Eve Ensler, l'auteur américaine des monologues du vagin, qui interviendra demain à Paris dans le cadre du Monde Festival.
Et l'invité à partir de 8h20, le démographe et sociologue François Errant, à propos du débat sur l'immigration qui s'ouvrira lundi à l'Assemblée nationale.
France Inter.
Le dossier de la gestation pour autrui avec cette décision de justice inédite, Bernadette.
Après des années de combat, le couple Menson a obtenu de la Cour de cassation l'entière transcription des actes de naissance de ses jumelles, nées par GPA aux États-Unis il y a 19 ans. C'est une décision en effet inédite. Alors est-ce que cela change en France quelque chose? Alors que la gestation pour autrui est interdite, que la mère qui n'a pas porté l'enfant est considérée comme mère d'intention et doit en passer par l'adoption pour établir la filiation, les opposants, en tous les cas, s'alarment. La boîte de Pandore est ouverte. Pour ceux qui sont favorables, au contraire, à une filiation automatique, on en est loin. Écoutez Fabien Joly, porte-parole de l'Association des familles homoparentales, joint par Daniel Messager.
La Cour de cassation ne dit pas, dorénavant, vous transcrirez l'acte de naissance étranger automatiquement et donc la filiation des parents, qu'il soit biologique ou pas, sera automatiquement reconnue en droit français. C'est pas ce que dit la Cour de cassation. La Cour, au contraire, dit, c'est ça qui est intéressant, qu'il faut qu'il y ait un contrôle du juge français afin d'apprécier si oui ou non on doit reconnaître le lien de filiation qui a été établi à l'étranger. Donc on est vraiment dans une solution qui n'a rien d'automatique. Je ne pense pas que demain, si quelqu'un se présente au consulat de France à tel ou tel endroit, qui lui dit « j'ai un acte de naissance avec un père et une mère, la femme n'est pas celle qui a accouché », même s'il lui montre l'arrêt de la Cour de cassation, je pense qu'il n'y aura pas de transcription, parce qu'on va lui dire « écoutez, en principe, adoptez ». Et puis ensuite, si vraiment vous ne pouvez pas adopter, si vraiment tout ça est impossible, après 10 ou 12 années de procédure, là on vous donnera la transcription.
Alors qu'à l'Assemblée jeudi soir, les députés ont adopté un amendement autorisant cette filiation automatique après GPA à l'étranger, le gouvernement qui est opposé veut rattraper le coup, il demande une nouvelle délibération, d'autant que demain, la Manif pour tous est de retour, elle appelle à manifester contre le projet de loi bioéthique qui est actuellement à l'Assemblée en discussion et contre notamment la PMA élargie à toutes les femmes.
Ils ont 14 et 15 ans, ils sont en garde à vue après la mort d'un autre garçon de leur âge.
Un lycéen poignardé hier matin au Lila en Seine-Saint-Denis alors qu'il s'interposait dans une bagarre entre bandes, Bagnolet, Pré-Saint-Gervais, Romainville et les Lilas, donc des violences récurrentes dans ces banlieues. L'an dernier, un collégien de 13 ans a été tué aussi dans les mêmes circonstances. Mais quand va-t-on stopper cette barbarie? S'indigne Laurent Roux, il est prof de lettres en collège, au micro d'Adjira Mohamed.
D'année en année, on sent les tensions effectivement qui s'accroissent, mais ce qui prédomine, c'est l'écœurement. Encore un jeune aujourd'hui qui vient de se faire tuer. Est-ce qu'on ne peut pas éviter ça?
On empêche comment? En mettant des moyens supplémentaires? C'est toujours le même argument pour vous, la même solution?
Mais vous en voyez d'autres? Bien sûr que tout ça est lié, et bien sûr qu'on en revient aux moyens. Ce qui est quand même très inquiétant, c'est de voir que notre jeunesse est livrée à cette barbarie sur fond de trafic, sur fond de désœuvrement. Et ce qui nous inquiète d'autant plus, nous enseignants, c'est que dès le collège, on voit bien ce qui dysfonctionne et ce qui n'est pas fait pour cette jeunesse. Par exemple, en ce moment, on manque d'heures d'AVS hein, qui soutiennent les élèves qui sont en grande difficulté scolaire. On a des élèves qui devraient être scolarisés dans des structures médicalisées qui ne le sont pas. On ne peut pas imaginer que notre jeunesse aille bien après. Et on ne peut pas imaginer que dans ce contexte de pénurie de moyens, on ne puisse pas ensuite éviter la barbarie et le drame.
En gare de Marseille et de Toulon, la situation s'améliore ce matin après des heures de paralysie après une fuite de gaz près d'une ligne ferroviaire à La Ciotat. La SNCF a pu affréter des bus et une rame TGV dès hier soir à Marseille. À la gare de Toulon, un certain nombre de voyageurs ont quand même passé la nuit à bord d'un train.
L'attaque meurtrière à la préfecture de police de Paris avec cette hypothèse terroriste désormais évoquée depuis hier soir.
Oui, 4 fonctionnaires de police, je le rappelle, tués au couteau par un de leurs collègues qui a ensuite été abattu, les SMS échangés avec son épouse, l'analyse de son ordinateur, des signes qui ont conduit le parquet donc antiterroriste à se saisir de l'enquête. Cet informaticien avait accès à des informations ultra sensibles. Alors faut-il s'alarmer comme FO Police qui parle de failles immenses? Le député Éric Poulia est co-auteur d'une enquête sur la radicalisation dans les services publics. Il assure que les forces de l'ordre notamment sont particulièrement surveillées.
La police et la gendarmerie sont des services qui ont déjà mis en œuvre des moyens efficaces de lutte, de prévention contre la radicalisation. Des agents qui sont criblés, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à une enquête administrative au recrutement et pendant leur activité. Il y a aujourd'hui 30 à 35 fonctionnaires ou militaires qui sont suspectés de radicalisation, des personnes qui peut-être à un moment donné ont émis un signal faible, un comportement un peu douteux ou disons une pratique religieuse un peu trop appuyée sur 300 000 agents. Donc on est vraiment sur des proportions extrêmement faibles. Les services publics qui nous ont inquiétés, c'était plutôt le sport, les transports publics, la prison, qui nous a apparu véritablement sous-dotés en termes de réponses. Mais la radicalisation, c'est un combat qui n'est jamais gagné. Le combat, il est gagné à partir du moment où le passage à l'acte ne se fait pas, où la prévention est là et où on intervient suffisamment tôt pour que on puisse écarter la menace.
Le député Éric Poulia, joint par Cécilia Arbona, la femme du tueur de la préfecture de police, est toujours en garde à vue ce matin.
L'actualité à l'étranger avec Hong Kong paralysé.
Métro, bus, train à l'arrêt, des dizaines de commerces, de banques fermées, état d'urgence décrété après une nouvelle journée de violence qui a été provoquée, Florence de Changy, par l'interdiction du port du masque lors des manifestations.
Si la chef de l'exécutif, Carrie Lam, souhaitait mettre un terme aux confrontations devenues quasiment quotidiennes à Hong Kong, son recours à des lois d'urgence pour interdire le port du masque a provoqué une nouvelle vague de violence et des actes plus nombreux de vandalisme cette nuit. Des émeutes impliquant en général entre quelques dizaines et au plus quelques milliers de personnes ont éclaté dans une dizaine de quartiers, y compris des quartiers jusqu'à présent épargnés par les confrontations. Les manifestants ciblent depuis longtemps la société de métro MTR, qu'ils accusent d'être à la botte du gouvernement et d'aider la police dans ses opérations. Mais ils visent aussi désormais tous les commerces étiquetés « bleus », c'est-à-dire du camp pro-Pékin, la Banque de Chine et les agences de voyage chinoises sont des cibles de choix. Après les incendies allumés dans plusieurs stations de métro, l'entreprise MTR a pris la mesure exceptionnelle de fermer l'ensemble du réseau de métro pour garantir la sécurité des usagers et de son personnel. Une mesure qui va contribuer à immobiliser la ville aujourd'hui. Hong Kong, Florence de Changy, France Inter.
L'Irak aussi s'embrase. 60 morts, 1600 blessés. C'est le bilan en 4 jours seulement des manifestations de jeunes qui exigent le départ d'un gouvernement accusé de corruption. Les forces de l'ordre tirent à balles réelles pour donc réprimer ces manifestations. En sport, en France, revoilà les Bleues du football féminin. Elles battent l'Islande en match de préparation aux qualifications pour l'Euro 2021. Elles se sont promenées face à l'Islande. Victoire 4-0 et les supporters étaient nombreux car Samia Belbachir, il y a indéniablement un avant et un après Coupe du Monde.
Bon, il n'y a qu'à voir le nombre de spectateurs dans les tribunes du stade des Costières à Nîmes hier soir. Près de 11 500 supporters sont venus encourager l'équipe de France face à l'Islande. Ça change d'il y a à peine quelques mois, la vice-présidente de la Fédération française de football, Brigitte Henriques.
Rappelez-vous, en 2009, à l'Euro, où on passe pour la première fois les phases finales. Il n'y a même pas un journaliste à la conférence de presse parce qu'on n'intéressait personne. C'est vrai que là, de savoir qu'il y a eu 3 tours pour pouvoir décider de qui aurait les droits, voilà, ça fait extrêmement plaisir. Les choses sont enclenchées, on ne reviendra jamais plus en arrière. Et avoir 11 400 spectateurs à Nîmes, c'est énorme. On est venu jouer en 2012, il n'y avait pas 4 000 personnes.
Une attribution qui satisfait aussi évidemment les joueuses de l'équipe de France, dont la capitaine Eugénie Le Sommer, auteur d'un doublé en première période face à l'Islande.
Et c'est bien que les droits aient été acquis par TF1 et Canal+. C'était le cas à la Coupe du Monde et je pense qu'ils sont sur la lignée. Et voilà, c'est bien pour le football féminin, pour la suite. Et le plus important, ça va être maintenant de se qualifier et puis de faire bonne figure à l'Euro.
Et ça commence donc par remporter ce premier match de qualification face au Kazakhstan mardi prochain.
Et il n'y a pas que le football féminin hein, dans la vie, il y a aussi le football masculin.
Et c'est une femme qui en parle.
Amiens a battu Marseille 3-1 en ouverture de la 9e journée de Ligue 1.
Et le journal des sports complet, ce sera à 8h10 ce matin. Merci beaucoup, Bernadette Chamonaz.